Bonsoir à chacune, à chacun. Et puisque nous avons prié pour le repas, maintenant il faut que le repas soit bon. Mais je ne suis que le serveur, ça me rassure. Parce que le vrai cuisinier, c'est le Seigneur. Nous, finalement, on n'est que des instruments entre les mains du Seigneur pour vous servir ce qu'il a préparé. J'ai envie de dire bon appétit. Que ce soit en tout cas un repas spirituel qui nous amène à nous rapprocher de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, s'il vous plaît. 28, verset 16, s'il vous plaît. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. » Quelle parole encourageante. Il y a des gens qui ont douté, mais Jésus est venu pour nous assurer que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Je me souvenais, en venant sur la route, d'un vieux cantique, peut-être certains connaissent, un vieux cantique d'une vieille cassette, c'était pas les CD à l'époque, de Dany et Moïse, des chanteurs qui ont composé beaucoup de cantiques sur la foi. Et un de ces cantiques disait, c'est un cantique qui m'est resté, qui était très fort, « Quitte l'autoroute de l'enfer et viens sur le chemin du ciel. » Parce que Jésus nous dit « Je suis » le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai, combien aujourd'hui de personnes ne se soucient pas de leur âme, ne se soucient pas de l'existence de Dieu, de l'au-delà, d'après la mort, et ils sont comme sur l'autoroute de l'enfer. C'est encore un appel de Dieu, un appel d'amour, disant « quitte l'autoroute de l'enfer et viens sur le chemin du ciel ». Par Jésus-Christ, oui, nous avons la vie. Et justement, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui, lorsque nous sommes sur une route, quelconque route, qu'est-ce qui peut nous stopper? Allez-y. Ah, le stop. Merci, monsieur de Dieu. C'était la réponse que j'attendais. C'est pour ça que je l'écoutais, lui. Non, toutes les réponses sont bonnes. Mais ça, c'est la meilleure réponse, monsieur de Dieu. Le stop. Forcément, le stop nous arrête. Enfin, j'espère. Parce que je vois vos visages inquiets. Alors je reprends, normalement le stop doit nous arrêter. Lorsque nous sommes en voiture, que nous voyons un stop, nous nous arrêtons, normalement. Il y a encore des visages qui ne sont, sont pas convaincus. Pourquoi est-ce que le stop nous arrête? Parce qu'il y a un danger, effectivement, et qu'est-ce qui fait que je vais, entre guillemets, obéir à ce stop, ce panneau de qui me signale qu'il faut que je m'arrête? C'est quelque part un panneau du code de la route qui a une certaine autorité, effectivement, qui a une certaine autorité pour me dire de m'arrêter. Il a une autorité. Maintenant, je vous pose une seconde question qui est peut-être plus délicate. Est-ce que sur la surface de la Terre, tous les êtres humains ont toujours respecté cette autorité du stop? Non, peut-être même qu'il y en a parmi nous ici. Je ne sais pas. Peut-être même inconsciemment, ça peut arriver, de griller un stop, comme on dit. Et quand bien même on s'arrêterait, ça peut arriver aussi de ne pas s'arrêter 3 secondes. Or, c'est la loi qui le demande. Normalement, on s'arrête 3 secondes. Qu'est-ce qui fait que ce panneau fait autorité? On s'arrête, mais que parfois on ne s'arrête pas, c'est que ce panneau a l'autorité, mais il n'a pas le pouvoir de nous arrêter. Il fait autorité, mais s'il n'y a personne et qu'on regarde à gauche, à droite, quelqu'un peut être tenté de passer et de se dire « de toute façon, personne ne me voit et le panneau n'a pas le pouvoir de retenir ma voiture. » Il ne me dit simplement que « stop ». Et voyez-vous, la Bible nous dit que Jésus était là, les gens doutèrent à un moment donné de sa présence, de sa puissance, Mais lui, il est en train de nous dire, non seulement il a l'autorité, mais il a le pouvoir. Le pouvoir dans les cieux et sur la terre, sur toute chose. Jésus a reçu le pouvoir de dire stop. Et si le panneau n'a pas d'œil, n'a pas de pouvoir, Jésus, lui, est le Tout-Puissant dans nos vies spirituelles. Lorsque nous sommes sur notre chemin spirituel, vous savez qu'un panneau sur une route ne peut pas nous arrêter, mais Jésus peut arrêter n'importe qui. Et Jésus peut dire stop. Et quand Jésus dit stop, ce n'est pas quand un panneau dit stop. Quand Jésus dit stop, on s'arrête. Et quand bien même on voudrait aller plus loin, il a le pouvoir de nous arrêter dans notre folie. Et le message, le thème et le titre que nous pourrions donner ce soir est le suivant. Quand Dieu dit stop. Quand Dieu dit stop à la folie d'un homme. Quand Dieu dit stop au péché. Quand Dieu dit stop à nos tempêtes, pour nous rassurer. Oui, quand Dieu dit stop, c'est stop. Parce qu'il a reçu l'autorité et il a reçu le pouvoir. Il est le Tout-Puissant, il est El Shaddai. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que dans les révélations de l'apôtre Jean, sur l'Apocalypse, dans les derniers temps, que le salut est venu, voici, il le voit. Il a une vision, le règne de Dieu. Et la puissance par Jésus-Christ, l'autorité. Il nous est dit qu'il nous a montré l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus d'eux toute dignité, toute domination, toute puissance, toute autorité dans le ciel et sur la terre, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Il a l'autorité suprême et le pouvoir. D'ailleurs, j'ai aimé, et nous avons tous aimé, ce cantique que nous avons pris ensemble et qui nous disait de son trône de clarté, de son ciel de pureté. Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux. Et il a été justement, Dieu a déployé sa puissance justement, en le faisant ressusciter, en le ressuscitant d'entre les morts, et Jésus-Christ s'est assis dans le ciel à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité, sur son trône en tout pouvoir. Autorité et pouvoir. Ce soir, ce qui est important de retenir pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu a le pouvoir de dire stop. Dieu a le pouvoir de dire stop. Dans quelles circonstances? Alors nous allons le voir. Premièrement, je disais de dire stop à quelqu'un peut-être qui est sur cette autoroute dont nous parlait et qui court dans sa folie vers l'enfer, vers la mort, vers sa perdition. Dieu voudrait nous interpeller, vous savez, comme un marteau. La parole est comme un marteau. Est-ce qu'un coup de marteau, ça nous interpelle, non? Si vous êtes dans le calme, que vous faites la sieste, et que tout à coup, quelqu'un dans la maison vient et donne un grand coup de marteau. Vous allez sursauter, j'espère, à part pour ceux qui ont un sommeil très lourd. Mais normalement, il y a une réaction. La parole de Dieu est comme un marteau. Qu'elle soit comme un marteau ce soir, pour surtout bouleverser notre cœur et nous amener à réagir. Pour ceux peut-être aujourd'hui qui sont sur un chemin de perdition, et c'est par amour que Dieu veut nous faire réagir, reviens à ton Sauveur, reviens à ton Seigneur. Quand Dieu dit stop à quelqu'un qui est dans son péché, qui est dans sa voie de perdition. Alors on va lire un texte dans Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 16, très court. Trois versets, on revient au début de cet évangile. Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 16. Il nous est parlé de ce moment extraordinaire de la naissance de Jésus et les prophéties l'avaient annoncé. Et sur la surface de la terre, on savait que Jésus allait régner. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph, donc qui était l'époux de Marie, la mère de Jésus. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant, c'est-à-dire Jésus, et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya, écoutez bien, tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Quel drame! Un homme qui s'est enorgueilli, un homme qui avait du pouvoir sur la terre. Il n'avait pas compris qu'il avait reçu tout pouvoir. Et à un moment donné, il s'est enorgueilli. Il n'a pas voulu que la gloire revienne à Dieu. Il n'a pas voulu justement que quelqu'un vienne, comme ça, cela avait été annoncé par les prophètes, afin d'établir le règne de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré tous les petits-enfants. Mais il n'a pas pu déjouer les plans de Dieu. Cet homme s'appelait Hérode, Hérode le Grand. Et quand on regarde son histoire, je crois que le mot « grand » n'est peut-être pas très bien approprié, en tout cas moralement et spirituellement parlant. C'est un homme, écoutez bien, qui a fait exécuter sa propre femme, Mariam. Ensuite, il a assassiné son fils Aristobule, son fils Antipater et son autre fils Alexandre. À tel point qu'un homme, Auguste, a fait cette réflexion, cette parole qui ensuite a été connue. Il a dit, concernant Hérode, il vaut mieux être son porciné que son fils, parce qu'il a assassiné ses enfants. C'est terrible. Un homme qui a laissé le péché entrer dans son cœur au point d'en arriver à cette violence, cette haine. Un homme qui cherchait à combattre contre le plan de Dieu. C'est peut-être justement plus précisément la pensée de ce premier point. Il y a des gens qui combattent contre Dieu. Il y a des gens qui lèvent le poing contre Dieu. Il y a des gens qui se rebellent méchamment contre Dieu. Hérode le Grand, quel drame. S'en est suivi son fils qui s'appelait Hérode le Tétrarque ou Hérode Antipas. On le voit aussi dans les Écritures. Hérode Antipas, c'est celui qui va choisir de mettre Jean-Baptiste en prison. Et vous vous rappelez pourquoi? Parce que ce fameux Hérode avait pris la femme de son frère, Hérodias, et Jean-Baptiste a eu le malheur, entre guillemets, de lui dire la vérité. Et de lui dire, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Cela ne lui a pas plu, il l'a fait mettre en prison. Et ensuite, dans un jour de folie, il a demandé à la fille de Hérodias, demande ce que tu veux, je te l'apporterai. Et sous les conseils de Hérodias, elle a dit la tête de Jean-Baptiste. Et ainsi, il est allé assassiner, guillotiner Jean-Baptiste. Hérode, le fils de Hérode le Grand. Ces hommes qui ont lutté contre l'œuvre de Dieu. S'en est suivi le neveu de ce Hérode, qui s'appelait cette fois Hérode Agrippa. Alors je résume. Je ne pense pas que c'est bon non plus que ce soit utile de prendre tous les textes qui nous parlent de ces horreurs. Ça continue dans l'horreur. On continue à verser dans le crime. Hérode Agrippa, il va faire emprisonner Pierre. Il va décapiter Jacques. Et il accepte l'honneur et la gloire qui étaient dus à Dieu. Mais un jour, Dieu va dire stop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Stop. Dans la vie d'Hérode. Et on va le lire ensemble, c'est dans Actes 12, verset 20. Verset 20 à 23. Actes, chapitre 12, verset 20 à 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Oh, voix d'un dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. C'est terrible comme fin, mais c'est juste, parce que Dieu est un Dieu de justice. Les vers, ça nous rappelle un texte que le Seigneur Jésus nous donne sur l'éternité en enfer, la géhenne. Là, il y a des vers qui ne meurent point. Je crois que cet homme, il est mort dans son péché, dans son orgueil, dans sa résistance et son combat contre Dieu. Alors j'aimerais tout simplement conclure cette première partie en interpellant de tout mon cœur, avec affection et amour, quelqu'un qui dans cette salle se serait en train de lutter contre Dieu. Et je voudrais vous dire que si vous êtes encore là, c'est parce que la porte de la grâce est ouverte et parce que Dieu est amour. Et voyez combien de temps Dieu a attendu Hérode. Hérode le Grand, Hérode le Tétrarque, Hérode Antipas, Hérode Agrippa. Et à un moment donné, Dieu a dit « Stop ». Un jour, Dieu dira « Stop » et ce sera la fin. Soit l'un d'entre nous, de vous, repartira vers le ciel, car nous ne connaissons pas, c'est vrai, ni l'heure ni le jour de notre fin. Soit Jésus va venir avant la date de notre mort, mais quoi qu'il arrive, un jour, Dieu dira « Stop ». Et je vous en supplie, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu maintenant. Ne lutte plus contre Dieu, toi qui es dans cette salle et qui lutte contre les plans de Dieu. Toi peut-être qui te rebelles contre Dieu, qui lutte contre le pardon que Dieu voudrait t'offrir, qui ne veut pas te repentir, cesse de lutter contre Dieu. Car un jour, Dieu dira « Stop ». Et ce que Dieu voudrait dire ce soir, c'est « Stop » à cette route que tu es en train de prendre, cette autoroute de l'enfer, de la perdition, du malheur, pour te dire viens sur le chemin du ciel. L'amour de Dieu nous montre qu'il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais que nous soyons tous sauvés, que son nom soit béni. Amen. Quand Dieu dit stop au péché, vous rappelez que Dieu a dit stop une première fois au péché. Enfin, je dis une première fois, plusieurs fois. Mais il y avait cette corruption sur la terre. Alors que Dieu avait créé l'homme à son image, il était innocent et pur, et il a désobéi. Le péché est entré dans le monde, le malheur, la souffrance, le mal, les maladies, et Dieu a aimé l'homme, mais peu à peu, au fil du temps, au fil des siècles, il nous est dit qu'il y avait de la corruption. L'homme est devenu méchant au plus haut point dans son cœur. C'était terrible, la violence, la haine. Et qu'a fait Dieu ? Genèse chapitre 6, le déluge, effectivement. Combien de jours l'eau est-elle tombée ? 40 jours et 40 nuits. L'eau est tombée et Dieu avait averti, voyez l'amour de Dieu, et il n'avait pas dit « je vais détruire tous les hommes », il avait dit « ceux qui entreront dans l'arche seront sauvés ». Mais tout le reste sera détruit, anéanti, parce que Dieu avait déjà choisi de dire « stop au péché ». Et Dieu va repartir là avec ceux qui ont été justes, fidèles, qui ont voulu suivre sa volonté, Noé, sa famille, qui sont rentrés dans l'arche. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit ensuite ? Une fois que tout cela est fini, on repart, Dieu donne des instructions, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'homme pêche encore, parce que l'homme est pécheur. Le péché est attaché à sa chair. On ne peut pas se défaire du péché comme cela. On ne peut pas se nettoyer du péché. On ne peut pas laver notre cœur nous-mêmes du péché. Et nous voyons bien que le péché est là. Alors, qu'a fait le Seigneur Jésus ? Il a voulu dire « stop au péché ». Il était le seul à avoir autorité et pouvoir pour dire stop à ce que l'homme ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dans le jardin de l'homme et de notre être intérieur nous cause du souci ? Ces mauvaises herbes, ces mauvaises plantes qui poussent la maladie. Quand on entend tous les jours à droite à gauche un cancer, une tumeur, une leucémie, foudroyante, et bien d'autres maladies rares et nouvelles qui se découvrent. La maladie, la souffrance, les divorces, les déchirements, la violence, la haine, les agressions, le mensonge, le vol, la tromperie, la tricherie, l'hypocrisie. Et on pourrait bien sûr rallonger la liste, que de tristesse. Mais finalement, toutes ces plantes d'où tirent-elles leur source et leurs racines? Si demain, vous avez une mauvaise plante qui pousse, que ferez-vous pour arracher cette plante? Si je vous donne un sécateur, allez-vous couper le haut de la plante? Oui? Ah, vous m'étonnez. Ah, non. Qu'est-ce que vous ferez? Vous allez enlever la racine, vous faites comme moi, bien que je n'ai pas la main verte. Mais on enlève la racine. C'est le seul moyen d'enlever et d'arracher la mauvaise plante. La racine de tous les maux, les maladies, la tristesse, la peine, la violence, la haine, le mal, les souffrances, c'est le péché. La Bible nous le dit clairement. Et Jésus a voulu s'attaquer à la racine de tous ces maux, c'est pourquoi il est venu du ciel sur la terre, de son trône de clarté, de son ciel de pureté, il s'est dépouillé, il est descendu pour venir briser le pouvoir du péché, arracher la racine de nos maux et de nos souffrances. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant lire ce merveilleux verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 20, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. » Et là, qui parle? Bien sûr, c'est Paul, mais ce soir, ce sont tous les croyants, ce sont ceux qui ont chanté, ce sont ceux qui ont joué de la musique, ce sont ceux qui ont prié, ce sont les anciens, ce sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, qui sont là et qui vous supplient, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Jésus a été fait péché afin d'arracher la racine du péché. Parce que Jésus, s'il a été crucifié sur le bois de la croix, et que certainement ses ennemis et ses détracteurs, et le diable en premier, se frottaient les mains en se disant « Nous avons réussi à crucifier le Fils de Dieu, celui qui est venu, Dieu incarné en l'homme », en réalité, ils étaient en train d'accuser leur plus grande défaite. Parce qu'en étant crucifié, Jésus a crucifié le péché. Il a brisé le pouvoir du péché, il a cloué le péché à la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit qu'il s'est fait lui-même péché. Il ne nous est pas dit qu'il a été pécheur, il ne nous est pas dit qu'il a péché, il nous est dit qu'il a été fait péché. Ce qui veut dire que la somme de tous mes péchés, de tous vos péchés, et de tous les péchés de l'humanité depuis la création, à travers tous les âges et toutes les époques, il l'a prise sur lui et il l'a portée. Afin que nous puissions être libres. Ça satisfait la justice de Dieu qui est saint. Et Jésus nous purifie maintenant de tout péché. Non pas que nous sommes aujourd'hui, et quand quelqu'un est chrétien, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, qu'il ne pêche plus, mais ça veut dire, comme l'Esprit de Dieu a inspiré l'apôtre Jean, que maintenant, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière, alors le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Ce qui veut dire que quand je crois en ce sacrifice, que je me repens et que je demande pardon, j'entre dans ce processus de purification. Jésus lave mon cœur, il me purifie. Seigneur, je te demande pardon. Et ensuite, j'avance et je marche dans la lumière, selon l'enseignement de la parole. Si ensuite il m'arrive d'avoir des moments de faiblesse et que je pêche, je demande pardon, Seigneur, et automatiquement, son sang précieux me purifie. Parce que je marche dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même et lumière, 1 Jean 1, 7, alors le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Que son nom soit béni. Jésus voudrait dire stop au péché. Il a dit stop au péché. Mais malheureusement, ne seront bénéficiaires de ce pardon et de ce salut que ceux qui accepteront Jésus comme sauveur, qui accepteront de dire « Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon, je suis pécheur » de tout leur cœur. et qui diront maintenant, je veux être sauvé, je veux avoir ta grâce, je veux, s'il te plaît, que tu me donnes ce pardon et pouvoir moi aussi être sauvé pour la vie éternelle. Et Dieu le fera parce qu'il est plein d'amour et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Jésus a tout accompli à la croix. C'est pas par nos forces qu'on peut être pardonné, purifié de nos péchés. C'est par ce que lui a fait. Il a tout accompli. Il a dit stop au péché. Et peut-être quelqu'un est là, mais il ne s'est pas repenti. Et les conséquences du péché sont encore à l'intérieur de sa vie. C'est quoi? C'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a une fracture, hémorragie externe, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule, tout le monde panique, vite, 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 médecin, hôpital, SAMU, pompier, on arrive, on prend la personne, on la soigne. On a vu qu'il y a un mal. Quand il y a une fracture, hémorragie interne, on se dit mince, il y a une fracture, on ne sait pas trop ce qu'il y a, ce jeune homme est en train de souffrir, il faut intervenir. Mais personne n'est au courant qu'à l'intérieur, il y a un mal encore plus profond, une hémorragie interne. Elle ne se voit pas à l'œil nu. Pourtant, le mal est bien profond. Et les conséquences peuvent être graves et même dramatiques. Et si on laisse la situation telle qu'elle, ça peut amener à la mort. Et vous savez que dans certains pays, ils n'ont pas les moyens médicaux et les moyens de soins qu'on a dans notre pays. Et cette chance-là. C'est exactement ce que fait le péché. Quelqu'un me dira, moi je n'ai jamais tué quelque personne. C'est vrai, tu n'as jamais tué personne. Peut-être que visiblement, extérieurement, rien ne choque. Vous avez un mode de vie qui ne paraît pas être dans le péché. Mais le péché, il est entré dans le cœur de l'homme. Et ça ne se voit pas extérieurement, mais Dieu le voit à l'intérieur. Dieu le voit et notre cœur est taché. Et l'effet que pourrait produire l'hémorragie de destruction encore du corps et endommager les organes est le même effet que fait le péché à l'intérieur de notre être. Il détruit l'intérieur et nous amène à la perdition. Ce que fait le Seigneur Jésus, il lave notre cœur, il nous purifie, il nous change, il nous régénère, il nous donne une vie nouvelle. C'est tout simplement une attitude sincère devant lui. Je vais donner une deuxième illustration afin que nous comprenions bien. Quand quelqu'un vit le moment terrible d'être brûlé, la peau est brûlée. Je me suis renseigné, c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. Le plus grand danger du feu, je parle du mauvais feu qui brûle, qui fait mal, c'est qu'il consume de l'intérieur et qu'il détruit à l'intérieur. Et quand bien même on éteint le feu, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de flamme, on croit que tout va bien, mais il y a un processus de destruction qui continue à l'intérieur si on n'est pas soigné. C'est exactement ce qui se passe avec le péché. Tu as beau essayer extérieurement de changer certaines choses, ce que tu as besoin, ce que nous avons besoin, c'est que Jésus change notre cœur, que Jésus lave notre cœur, que Jésus transforme notre cœur, que Jésus vienne purifier notre cœur et nous amène à vivre en nouveauté de vie, à être des gens transformés. Et ça, c'est la vie intérieure. Il n'y a qu'une seule chose, c'est le sang de Jésus qui stoppe l'hémorragie, qui stoppe le feu. Quand Dieu dit stop au péché, maintenant le Seigneur voudrait purifier ton cœur. Et c'est un appel pour toi. Jésus peut purifier l'être entier. Il peut purifier l'intérieur. Et je vous pose encore une question. Pourquoi? Jésus a-t-il souffert à la croix plus extérieurement ou intérieurement? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Oui. On lui a arraché sa barbe, il a souffert extérieurement. On lui a mis une couronne d'épines, il a souffert extérieurement. On l'a frappé, coup de poing, soufflé, coup de fouet, clou, lance, il a souffert extérieurement. Mais intérieurement, Jésus a pris, psychologiquement parlant, si je puis m'exprimer ainsi, spirituellement parlant, moralement, intérieurement parlant, le poids des péchés de tous les agresseurs de l'humanité depuis la création, le poids des péchés de tous ceux qui ont fait des tortures à d'autres, le poids des péchés, des souffrances que tous les enfants ont subies, que toutes les femmes battues ont subi, que de toutes les agressions sexuelles et de toutes sortes de maux terribles dont il est inutile d'énumérer la liste. Et ça, il l'a ressenti et subi intérieurement. Alors je repose la question. Jésus a-t-il plus souffert extérieurement ou intérieurement? C'est pourquoi la croix n'est pas une image de sentimentalité, de sensiblerie, mais c'est la réalité du si grand salut qui est parvenu jusqu'à nous. Il y a ce qui est extérieur à la croix que nous voyons et que nous lisons, il y a ce qui est intérieur et qui est extrêmement grand. Si Jésus a souffert extérieurement, intérieurement, c'est afin que nous aussi, nous puissions voir l'hémorragie du péché stoppée intérieurement. Quand Dieu dit stop au péché, c'est stop au péché. Quand Dieu te dit tu es pardonné, tu es pardonné. Quelle grâce. Quand Dieu te dit je te sauve, tu es sauvé. Quand Dieu te dit je te donne ma paix, tu es en paix. Quand Dieu te dit tu entreras aujourd'hui dans le paradis de Dieu, comme à ce brigand, aujourd'hui tu entres dans le royaume de Dieu. Et tu es quelqu'un de nouveau, que son nom soit béni. Quand Dieu dit stop. Je vais rapidement sur les deux derniers points. Quand Dieu dit stop, non, je vais en prendre qu'un. Il faut être raisonnable. Je ne veux pas être trop long ce soir. Quand Dieu dit stop à la tempête, y a-t-il des tempêtes dans ta vie, mon ami, ce soir, mon frère, ma sœur? Alors nous allons rapidement lire dans Marc, chapitre 4, versets 37 à 39. Marc, chapitre 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Quand on lit cette histoire, c'est presque simple comme bonjour. Et pourtant, qui aurait pu faire cela? Quand Dieu dit stop à la tempête, quand Dieu dit silence à la tempête, quand Dieu dit tais-toi aux vagues, aux flots et au vent de la mer qui ballotte ta barque. Et de la même manière, les disciples qui étaient là, qui étaient dans le doute, un peu comme au début du premier texte que nous avons lu, ils doutèrent. Mais Jésus nous rappelle qu'il a autorité et pouvoir sur les circonstances, sur les éléments, vous avez vu, il dit stop à la tempête, sur les situations. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et là, il ramène la paix, il ramène le calme. Il ne nous est pas dit qu'il y eut calme, il nous est dit qu'il y eut un grand calme. Et quand Jésus vient dans un cœur, c'est un grand calme, c'est une sérénité, c'est une paix, parce que nous faisons confiance en un Dieu qui a reçu toute autorité et tout pouvoir. Et pour vous rassurer, eh bien Dieu est amour. Et si Jésus avait autant d'autorité, c'est aussi parce qu'il avait l'amour. Donc, autorité, pouvoir et amour, que demander de plus? Quelqu'un est-il dans la tempête? Est-il ballotté par les vents? Au point même peut-être de poser des questions au Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas de moi dans ma situation? Comme ces gens. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu penses à moi? Ça vous arrive des fois de poser ces questions? Mais il est vrai que nous avons besoin parfois d'entendre simplement le Seigneur nous dire « Oui, ne t'inquiète pas, je pense à toi et je suis là pour calmer ta tempête. » Et mettre dans ta vie non pas un calme, mais un grand calme. Aie confiance en moi et reviens auprès de ton Père, de ton Maître, de celui qui a reçu toute autorité, tout pouvoir et tout amour. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui calme nos tempêtes et ce soir je suis convaincu qu'il va dire aussi à une tempête que traverse quelqu'un, aux circonstances et aux situations, « Silence, tais-toi !» Et alors il y aura un grand calme. Parfois, il faut un peu attendre, lui faire confiance, et à un moment donné, Jésus dit « Ok, j'arrive !»« Silence, tais-toi !» Quand Dieu dit « Stop !» Il dit « Stop !» Et alors il y a un grand calme, que son nom soit béni. Amen. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous recueillir ensemble et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es grand, tu es redoutable, tu es tout puissant, tu as reçu toute autorité et tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous sommes heureux d'être en communion, en relation avec ce Dieu grand et fort, avec ce Dieu plein d'amour qui pense à chacun d'entre nous et à nos besoins. Combien nous te bénissons de venir sur nos routes et nos chemins pour venir parfois nous dire stop, stop dans notre folie pour nous ramener à la raison, stop peut-être dans notre perdition pour nous amener à la vie. Combien nous sommes heureux aussi d'être au bénéfice de ta grâce qui vient dire stop aussi aux tempêtes que nous traversons. Par amour tu viens pour amener un grand calme parce que tu es un grand Dieu. Et nous nous appuyons sur un grand Sauveur et un grand Seigneur. Ô, à toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et le règne ce soir. Au nom de Jésus. Amen.